J'y répète souvent parce qu'il faut que ça soit clair. Quand on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments. On est bien d'accord? Ce n'est pas le clocher à côté là-bas, même si on appelle l'église parce que c'est une habitation. Mais l'église, c'est toi et moi. On est d'accord? L'église, c'est vous et moi. L'église, ce sont tous les chrétiens dans le monde entier. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui obéissent au commandement de Jésus, tout simplement. Parce que les non-chrétiens, ça ne veut rien dire. Vous savez, si vous dites je me réclame chrétien, mais si vous n'êtes pas devenu vraiment l'enfant de Dieu, il y aura quelques problèmes. D'accord? Donc quand on reçoit Jésus dans notre vie, dans notre cœur, on le reçoit, on devient un enfant. Un enfant, et puis l'appellation chrétien, ça concerne tous ceux qui se réclament chrétiens, tous ceux qui ont une confession chrétienne, bien sûr. Mais moi, j'ai compris par le biais de la parole de Dieu que si je suis un enfant de Dieu, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie et après les étiquettes, ça veut rien dire. Ce sont que des repères sur cette terre, on est bien d'accord, dans un pays civilisé. Donc l'Église, c'est ça. Il y avait donc Philippe de Courroux, vous vous souvenez, hein? Bon, il y en a plusieurs parmi vous. Vous êtes posé la question, c'est pas ma musique. Les jeunes, quelquefois, nous disaient, ouais, mais c'est pas ma musique. C'est qu'il y a la différence. Moi, j'ai jamais vu. C'est vrai que, comme nous, on a élevé cet enfant, et chaque fois, les enfants nous disaient, ouais, mais bon, nous, c'est pas ta musique. Hein. Je voulais savoir, mais quel est leur message? Est-ce que moi, je suis en retard, ou est-ce que c'est eux qui sont à l'avance, hein? J'ai toujours essayé d'avancer pour ne pas perdre les enfants, pour ne pas perdre la jeunesse. Mon objectif aujourd'hui, c'est trouver une façon pour gagner les jeunes, parce que moi, je suis sauvé. Donc, je peux prier à genoux, je peux prier allongé, je peux prier au lit, dans le lit, je peux prier partout. Vous comprenez? Je peux pleurer si l'onction de Dieu est sur moi. Mais l'approche de vous, les jeunes, bah, c'est différent. Et encore, quand je vois mes petits-enfants maintenant, c'est encore différent. Vous comprenez? J'ai compris, j'ai vu mes parents qui grandissaient dans la foi. Leur approche était différente parce que ils ont connu la guerre, la souffrance. Bah, au moment où ils commençaient à pleurer, à prier, bah, ça pleurait comme ça. C'était très sentimental. Mais moi, je n'ai pas connu la guerre. Vous comprenez? Mes enfants, encore moi, et mes petits-enfants, voilà, vous comprenez? Si moi j'avais levé mes mains comme ça quand j'étais tout petit, ben mon père, il m'aurait dit, ben t'es vraiment un païen, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, et ça se respecte, il y a une évolution, Quand Alexis m'a dit, à un moment, je lui ai dit, bon écoute, tu sais, t'as besoin de Dieu, hein. Bah, oui, je le sais, je le sais. Oui, que tu pries, je voulais savoir, vous comprenez, quelque part, les parents font tout pour encourager les enfants. Hein. Elle m'a dit, bah, écoute, t'inquiète pas, hein, je rentre dans mon lit, je me couvre bien, puis j'ai prié. Mais si moi j'avais dit ça à mon père, il aurait dit, non, mais attends, tu pries, tu t'agenouilles, tu pleures bien, tu pries. Et ça, c'est une prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vrai, ce qui compte, c'est une relation personnelle, la prière devant Dieu. J'ai oublié Christiane comme Philippe a oublié sa femme dimanche dernier. Je lui ai dit, tu vas nous donner un petit témoignage parce que vous avez tous prié pour elle. Notre combat n'est pas fini, hein. Mais juste une étape. Elle vous dira comment ça s'est passé. Ce matin encore, ce n'était pas facile. Voilà. Mais on a confiance en Dieu. Tu pourras dire un petit témoignage après la première étape de ton combat personnel, mais aussi de le nôtre, mais aussi vous, parce que vous savez, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, c'est la vie est comme ça. Et chacun a ses difficultés, ses combats, la maladie, etc. Allez.
Bonjour à tous. Oui, il y a deux, je suis à ma troisième étape. C'est la première étape, ça a été le diagnostic. Et lorsqu'on a été, on a eu le diagnostic, ça a été un choc, vraiment un choc. Mais quelque part, j'ai dû reprendre le flambeau à la maison parce qu'Antoine était complètement anéanti. Et je pense que Dieu fait en sorte que si l'un tombe, ben l'autre il le relève. Et moi, dans toute ma faiblesse, dans ce choc, j'ai dû relever mon mari. À peine je le regardais dans les yeux, il pleurait. On était à table, il pleurait. Partout où on était, il pleurait. Il me conduisait à l'hôpital, il pleurait. Alors moi, je dis, je ne vais pas aller avec les yeux rouges voir les médecins. J'étais quand même un peu fière. Hein. Mais c'était un moment comme ça. Et pour l'opération, j'avais peur. Vous dire franchement, j'avais peur parce que j'ai jamais été opérée. Je veux dire, ils vont m'ouvrir, qu'est-ce qu'ils vont trouver, on ne sait jamais. Bref, mais le jour de l'opération, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire dans cet hôpital et dans cette chambre. J'étais toute seule et on me dit, madame, vous allez descendre à 9h, vous allez faire des examens complémentaires. Alors qu'on m'avait dit, madame, il n'y a plus d'examens complémentaires. C'est comme ça, on vous met sur le billard, on vous ouvre, on enlève, point. Et moi, j'avais demandé au Seigneur, tu me montres ta gloire et je voudrais savoir si vraiment je suis guérie. Parce que je ne veux pas me faire ouvrir si je suis guérie. On avait prié. Moi, je croyais à la guérison miraculeuse. Mais Dieu, entre-temps, nous a dit que j'ai le contrôle de tout. Tu as le contrôle de tout, Seigneur, donc je ne suis pas guérie. Donc, le matin de l'opération, je descends au sous-sol, je fais une mammographie, je fais une échographie. Et quand ils font l'échographie, je vois le visage de la docteure qui est perplexe. Ah, merci Seigneur, je suis guérie. Oh, j'ai rien dit, mais dans mon esprit, c'était ça, je suis guérie. Elle dit, madame, c'est pas très clair, je vais faire une mammographie. C'était pas convenu. Et lorsqu'ils ont fait la mammographie, j'ai vu moi-même sur l'écran que le cancer était là. J'ai vu, ils avaient mis un fluide et que je voyais jaune sur l'écran. Ah, j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant je suis tranquille. Tu ne m'as pas guéri divinement. Donc, je vais dans la paix sur la table d'opération. Nous remontons et il y a une dame qui vient me donner les médicaments. Elle dit, madame, allez, vous allez aux toilettes, vous faites tout maintenant. Après, c'est fini, vous ne pouvez plus sortir du lit. Ok, je m'en vais. Et au retour, elle me dit, vous n'êtes pas la femme de monsieur, du pasteur Nocek Antoine. Oh, je dis, oui. J'ai vous, qui êtes-vous? Elle dit, je suis un tel, je suis une dame, je suis chrétienne à l'église de Waterloo. L'église de Boulevard des Couteaux, avec Eddie Wallet, je pense. Ah, et là, je lui dis, mais madame, vous êtes ma gloire. J'ai prié pour voir la gloire dans cette chambre et j'ai la gloire de Dieu dans cette chambre. Vous êtes un ange. Enfin, je l'ai, et puis je pleure. Et là, tout sort de moi. Vous voyez, je lui dis tout ce que j'avais dans ma tête, toutes mes appréhensions, tout est sorti. Elle m'a écoutée, elle m'a tout expliqué et elle dit, je prie pour vous. Elle a prié pour moi, on est venu me chercher, je suis partie dans la paix pour subir l'opération. Et la prière, est efficace parce que le jour de l'opération, la chirurgienne est venue me voir ensuite et elle dit, madame, toutes mes opérations aujourd'hui se sont déroulées très vite. Ah, mais vous savez, c'est là-haut, vous avez été bénie, vous avez été une femme bénie ce matin. Et elle me dit, oh oui. Alors que je lui avais dit qu'il y avait un peuple de Dieu dans le monde entier qui priait pour ce jour-là. Et elle-même, de sa bouche, a confessé que ce jour-là, les opérations ont été beaucoup plus rapides. Et elle m'a dit, j'ai tout enlevé avec quelque chose. Vous savez, avec, je sais pas, elle avait ces gestes-là, elle a dit, j'ai tout enlevé. Ah, je dis, merci Seigneur. Mais j'ai dû passer quand même par la radiothérapie. Et maintenant, je suis traitement par cachet pour une période de 5 ans. Et ce matin, j'ai brisé les liens des effets secondaires. J'ai dit, je prends ce cachet, mais je ne veux pas d'effets secondaires, Seigneur. Bénis-moi. Donc ce matin, c'est ma première prise de cachet. Voilà. Merci pour toutes vos prières, parce que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais grâce aussi à vous qui avez prié pour moi. Et puis mon mari, il ne pleure plus.
Et voilà. Donc on revient à mon sujet, l'Église en bonne santé spirituelle. Vous savez, nous, quand on a eu nos enfants, et tous les parents, hein, la première chose que nous observons, c'est que là, l'enfant soit en bonne santé. Hein. Puis la température des choses, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait tout pour éliminer quoi ? La maladie. Sinon, la maladie peut nous détruire, diminuer. Voilà, donc le développement, la croissance n'est pas naturel. On est bien d'accord. Hein? Donc, on fait tout pour que l'enfant... Et puis, la croissance, j'ai jamais pu décider à un enfant pour lui dire, bon, bah, toi, c'est 2 mètres. Toi, tu es une fille 1m80. Toi, 2m5. On n'a pas décidé. On ne peut pas décider. La croissance... Voilà, c'est naturel, comme ça. D'accord ? Donc, notre préoccupation, c'est que l'enfant soit toujours en bonne santé. Mais la croissance, voilà, dépend de notre Créateur. Dans les domaines spirituels, la même chose. La même chose. Il faut tout faire pour que nous soyons, nous, personnellement, en bonne santé. Il faut tout faire pour que le couple soit en bonne santé spirituelle, pour que l'Église, la famille, soit en bonne santé. Si l'Église est en bonne santé, ça prouve que à la maison, chez nous, dans le couple, en famille, nous sommes en bonne santé. Si nous sommes en bonne santé, donc la croissance voilà, se développe tout à fait naturellement. Mais on ne peut pas décider, on ne peut pas imposer, on ne peut pas dire, bah oui, oui, il y a notre foi, il y a la fougue, il y a quelquefois Dieu nous parle d'une certaine façon ou d'une autre. Mais... c'est Dieu, hein, nous sommes là pour ensemencer, pour ensuite quoi ? Arroser. Mais la croissance dépend de qui ? De Dieu. Amen. Donc la croissance spirituelle, la maturité, la croissance spirituelle, etc., déjà dans nos vies, sur les plans de l'Église et aussi numérique, dépend de Dieu. Mais avant, il faut que l'Église soit en bonne santé. Philippe de Courou nous a interpellé, donc je vous ai dit oui, tout le monde était heureux, même les enfants, comment il a su voilà, accrocher les enfants, et surtout par son témoignage percutant, on est bien d'accord, hein, percutant. Et il nous a parlé aussi que souvent on regarde nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves, mais on ne regarde pas la solution. Donc, il nous a encouragé de ne pas regarder, ne pas s'arrêter au niveau de nos problèmes, des épreuves, etc. Mais, pardon, il faut regarder, il faut fixer nos yeux sur la solution. La solution pour nous, c'est quoi ? Ah ben c'est Jésus. Jésus est une solution pour chacun d'entre nous. Amen. Et dans le monde entier, partout dans le monde entier, j'ai déjà tellement vu le pays de plusieurs continents, la culture est différente, l'approche est différente, mais partout, quand les enfants, quand le peuple est vraiment transformé par la puissance de Dieu, il y a le même but. Le but, c'est quoi? C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est la personne de Jésus. Voilà. Donc, Philippe nous a dit aussi que nous avons un ennemi qui s'appelle comment? Le diable. Le diable. Hein, il a assisté là-dessus. Il a assisté. C'est un menteur. Il fait tout. Il utilise tous les moyens pour nous décourager, pour nous déstabiliser, pour que nous soyons complètement dans le trou. Hein, c'est ça. Hein. Et donc, il nous a vraiment parlé de cette destruction diabolique. Voilà, donc c'est le diable qui utilise tous les moyens. Et quand on est chrétien, puis on est étudiant, il y a tellement de combats là-dedans. Hein. Il y a aussi, je me souviens, j'ai grandi dans un pays où c'était, tout a été fait pour anti-Dieu, 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 anti-Dieu. Quand vendredi soir, les sujets étaient proposés pour prier pour les persécutés, j'ai tout de suite pensé à mon père. Ça fait 20 ans qu'il est décédé, mais j'ai pensé à lui, comment il a souffert. Il a été en prison pour l'Évangile. C'était ici, en Europe, dans les pays de l'Est, sous les soviétiques, là, à l'époque. Vous comprenez? Donc, il y avait cette persécution terrible, mais en même temps, pour nous, après, c'était l'enseignement. L'enseignement, c'est le marxisme. Dieu, c'est la matière. Voilà, c'est tout. Hein. Mais surtout, pas Dieu. Donc, c'était un combat pour moi, parce que on avait peur de dire, j'ai les parents qui croient en Dieu. J'avais le peur de dire... moi, je crois en Dieu, et puis en même temps, je n'étais pas vraiment sûr que je vais suivre ce schéma-là. Vous comprenez, quand j'étais ado. Parce qu'on m'enseignait que Dieu n'existait pas, puis à la maison, Dieu existe. À la maison, je voyais Dieu qui agissait. À la maison, et puis tout ce que mon père faisait, toutes ces réunions, etc., on a vu des miracles. Vous savez, plus il y a des persécutions, ça vous devez savoir, plus il y a des miracles. Quand il y a la persécution... Quand il y a la misère, quand il y a la pauvreté, quand ma mère, elle me disait, on n'avait rien à manger, mais vraiment rien. Et puis tout à coup, elle se retourne, elle trouve des œufs. Et en principe, il n'y en avait pas. Sur une chaise. Vous comprenez? Mais déjà, pour nous, c'est... Mais c'est ma mère qui m'a raconté ça. J'ai dit à ma mère, j'étais quoi ? Comprenez ? Quand j'étais en Afrique, et puis les gens, ils mouraient presque, pratiquement. Et aucun moyen, ici, vous parlez de la médecine. Moi, je suis impressionné comment on est suivi. C'est eux qui nous téléphonent, c'est eux qui font les rendez-vous, c'est eux qui... Voilà, il y a tout un protocole. Et si vous suivez, on est tellement bien soignés. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Et puis tout à coup, les chrétiens arrivent d'à droite, à gauche, comme ça. J'ai vu ça. Hein. Et ça prie, puis les gens sont guéris. Alors, c'est la mort ou la guérison? Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Donc, il y a des épreuves, il y a des combats quand on est étudiant. Je vous ai dit comment que c'était pour moi. Et puis Dieu m'a sauvé. Merci. Oh, merci. Tellement heureux. Hein. Quand on est dans la vie de tous les jours et puis on est au chômage, combien des chômeurs, des gens qui sont au chômage, sont attaqués, sont... leur combat est terrible, mais quand on est chrétien, même si on compte sur Dieu, il y a des moments très, très difficiles. Hein. Très, très difficiles. Je me souviens d'un monsieur que j'ai rencontré au barbecue, donc à Lille, là, que nous faisons une fois par an. Je parle avec un monsieur, et puis ce monsieur, il me dit, j'étais patron de 50 personnes. Enfin, quand on est 9, parce que si c'est 50, je pense qu'il faut des délégués, donc il y a toutes ces choses-là. Et puis il dit, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon entreprise, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Et aujourd'hui, j'ai même pas mangé. Oh, vous comprenez? Il y a tous ces combats qui sont partout. Je me souviens, ça c'était à Chrétien, un petit patron qui avait 5 personnes et il est venu me voir pour me dire, c'était dans la région parisienne, il dit, Antoine, voilà, j'ai plusieurs personnes, j'ai mon entreprise, petite entreprise, j'ai nourri donc plusieurs personnes, plusieurs familles. Et puis voilà, il y a des choses qui se sont passées pas correctes autour de moi, et puis je suis en train de tout perdre. Tout. Oh là là. Et en plus, il dit, je pense à ces quelques familles qui pouvaient gagner leur vie et puis vivre normalement. Alors j'ai dit, on va se tourner vers Jésus, on va prier, on va chercher la présence. Plus tard, je l'ai oublié. Et il m'a dit, là, l'entreprise, elle a remonté, puis j'ai pu même embaucher encore 6e, 7e, 8e personne. Je ne dis pas que c'est juste ma prière, parce que certainement, il y a d'autres qui ont prié pour lui, vous comprenez? Mais il y avait la solution, même pour des choses comme ça, voilà, auprès de Dieu. Donc il y a des difficultés, des combats. Il y a Satan qui utilise tous les moyens pour détruire l'humanité et pour détruire la chrétien, pour détruire celui qui a la foi. Donc pendant le chômage, pendant les études, pendant notre vie professionnelle, dans les couples, dans la famille, etc. Donc partout, Satan fait tout pour nous détruire. Et Philippe justement disait, voilà, il s'adressait d'une façon directe, claire, en disant que tout ça, ça chauffe là-dedans dans notre intellect. Ici, il y a le mensonge. Voilà, il veut nous traîner dans la boue complètement, détruire. Il veut que nous souffrions déjà ici sur cette terre, mais attention, après c'est encore pire. Mais d'accord, hein? Mais Dieu nous a sauvés de tout ça. Alors on va prendre juste un verset dans la parole de Dieu, puis vous allez voir une église en bonne santé, une église qui fonctionne bien. D'accord? Donc on va baser mon partage sur la parole de Dieu. Les Actes des Apôtres, chapitre 9, et le verset 31 nous dit « L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il est question ici de quoi? La paix. Il est question ici de l'édification. Il est question ici de la marche dans la crainte du Seigneur. Il est question de la croissance. Et ensuite, l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du surnaturel. Nous pouvons faire quelque chose, mais on est très limité. Et nous avons besoin donc aussi l'assistance du Saint-Esprit. On revient à la paix. Donc la première chose qui est importante pour que l'Église soit en bonne santé, viens t'asseoir ici. Hein. Bienvenue, hein. C'est bien, t'es là. Assieds-toi là. Alors, c'est toi qui as parlé avec, hein. Non, c'est Nelly. Bon, tu vas t'asseoir à côté de lui, là, pour l'encourager un peu. Esteban, c'est ça? Esteban. Ça va? Bon. Donc, voilà. Voilà, regardez, les copains se retrouvent. Hein, c'est bien. L'espace café, c'est ça. C'est ça. Et il y en a Eli qui était là. Je m'excuse, hein, il était là. Il était comme ça, je l'ai regardé. Parce que je l'ai vu témoigner la parole de Dieu en anglais. Elle me pose la question, si ces deux jeunes filles viendront, est-ce que je peux demander à quelqu'un pour traduire? Elle était là. Mais je dis, mais prépare-toi à tout. Ils ne sont pas venus. C'est comme ça, vous comprenez, on annonce la bonne nouvelle à toute la création. La paix, donc la paix. L'Église, c'est toi et moi, c'est nous, voilà. C'est aussi Esteban s'il accepte Jésus à la fin de ce culte-là, il donne sa vie à Jésus. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir la paix. Il va recevoir la paix. Donc, prépare ton cœur. Hein. Prépare ton cœur. C'est un rendez-vous divin, même si tu disais un jour, une fois. Bon, on verra ça plus après. Hein. Voilà, donc il est question de la paix. L'Église était en paix dans toute la Judée, partout. Avant, il y avait la persécution. C'est bien, vous êtes souriant. Le contexte nous dit avant qu'il y avait la persécution à cette époque-là. Donc les disciples, les apôtres ont vécu des choses difficiles, voilà la persécution. Et puis ensuite, après, il y avait la prière, il y avait... Voilà, ils comptaient sur Dieu, puis Dieu a fait en sorte qu'il y avait la paix. Donc il y avait la paix, le calme, d'accord? Donc l'Église était vraiment dans la paix. Alors vous savez que Satan fait tout pour perturber la paix. Dans une église, ça s'appelle une maladie. Hein. Dans une église, il y a les perturbations qui viennent d'où? Ben de là-bas, à l'autre côté. Hein. Parce que là, nous venons là, Dieu change nos vies, transforme nos vies, nous libère de la condamnation, etc. Nous devenons des enfants de Dieu, mais celui qui n'a aucun pouvoir sur nous, puisque nous sommes protégés par Jésus, vous êtes d'accord, non? Il essaye par tous les moyens de venir de là-bas pour nous contaminer. Pour enlever la paix. Alors, ça peut être pas toutes sortes de péchés. Ça peut être cet esprit mondain, voilà, qui rentre pour perturber la paix. Et au moment où on a perdu la paix, il y a les problèmes qui s'installent, on est d'accord? Il y a les problèmes qui s'installent. Alors, il peut y avoir dans une église aussi, dans une assemblée, la rivalité. Allô? La rivalité. Les uns contre les autres. Ça commence là, quand Philippe disait là. Ça chauffe, on réfléchit, on commence à raisonner. Et puis voilà, on devient jaloux, il y a la rivalité quelquefois tranquille comme ça. Et puis, Satan a réussi quelquefois à enlever la paix de quelques personnes. Et puis après, ça se propage. Blablabla, ça parle à droite à gauche. Donc la rivalité entre les uns et les autres, les critiques, et d'où ça vient tout ça? De là-bas. On est d'accord quand je dis de là-bas, du monde, parce que le monde, c'est ça. C'est la rivalité partout. Ça critique partout. Vous allez chez le voisin, quand on va chez notre voisin, il sait tout ce qui se passe dans le quartier. Et puis après, on amplifie. Tout devient négatif. Tout le monde est méchant. Puis après, on se dit... Il est méchant, lui. Et pourtant, avec moi, tout le monde est gentil. Les critiques, voilà. Ensuite, le raisonnement. Vous savez, il y a le raisonnement quelquefois, parce qu'on est tous là. Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et puis, il y en a encore dans ma tête des raisonnements. Je raisonne tellement. J'ai éliminé pas mal de choses. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais je ne suis pas encore parfait. Y a-t-il quelqu'un ici qui est parfait? Non. Donc voilà, il y a tous ces raisonnements. On réfléchit, on pense. Je suis allé samedi à une pastorale, jeudi à une pastorale, le mardi à une pastorale. Et partout, il y a des projets. Samedi matin, c'était un grand projet pour la région. Tout à coup, 30 pasteurs qui sont là. Il y a quelqu'un qui vient d'extérieur, puis on nous parle, on nous témoigne, et tout ça. Puis c'est tellement prenant. Et pourquoi pas? Puis on ne va pas rester à côté. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour nous? Et puis, dimanche, ça c'était samedi matin, puis après-midi, je suis allé Espace Café, et puis je vois Nelly qui parle même en anglais, elle témoigne. Et puis ensuite, il y avait un monsieur qui était abîmé partout, il 60aine d'années, mais on lui donnait peut-être 80 parce qu'il était détruit déjà par l'alcool, par la drogue, par toutes sortes de choses rejetées par la famille. Puis je m'approche vers lui et je lui propose le thé ou un café. Puis il m'a dit oui, je vais prendre. Il était là, monsieur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est peu importe que son physique est déjà abîmé, mais c'est une vie comme la mienne. Vous avez compris? C'est une vie que Dieu a donnée comme la mienne. Son corps est abîmé. C'est affreux tout ça. Il dit, Seigneur, si un monsieur comme ça pourrait accepter Jésus dans sa vie. Amen. Ça serait vraiment formidable. Donc voilà, et je suis là. Et puis là, je ne vais pas critiquer les pasteurs. Hein, d'accord, c'est des amis. Hein. Mais on raisonne, on réfléchit, on calcule. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bouger finalement l'agglomération? Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis à tout moment, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Alors je pense que l'idée d'aller vers les gens, il n'y a pas mieux. Hein? On a besoin d'organiser les organisations, etc. Mais quand j'ai vu Nelly qui parlait en anglais avec une telle conviction, je me suis dit, si Jésus était là, à sa place, il aurait aussi parlé en anglais. Hein, parce que c'était des Anglaises. Elle devait être là ce matin. Alors vous voyez, Satan fait tout pour nous enlever la paix, la rivalité, la critique, le raisonnement. Ou quelquefois, on veut que Dieu confirme notre compréhension. Voilà, notre façon de voir les choses. Et même si on a compris des choses qui sont claires et nettes, déterminantes, mais Dieu est beaucoup plus grand que ça. Amen. Il est tout puissant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Vous vous souvenez, Philippe disait, moi, quand on s'arrête trop sur de choses compliquées, théologiques, etc., ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir la couleur des chaussures de Paul. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse, c'est annoncer l'évangile aux prisonniers, annoncer l'évangile aux prostituées, annoncer l'évangile aux drogués, annoncer l'évangile aux chefs d'entreprise, annoncer l'évangile aux politiques. Amen. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est formidable. Voilà. Mais, l'ennemi fait tout pour qu'il n'y ait pas la paix dans une église. Donc, le raisonnement, c'est quelque chose. Il y a des constatations aussi. Hein. Il y a un esprit de constatateur. Combien de fois j'ai pu constater que devant moi, il y avait des constatateurs, vous comprenez? Contestateur. Tu constates. Et qu'est-ce que j'ai dit? Conteste. Voilà. Bon, pas ici, hein, vous êtes très gentil. Quand on baisse la tête, et vous savez, souvent, l'ennemi, lui, il se sert de la parole de Dieu. Hein. Je vous ai parlé une fois. L'ennemi connaît mieux la parole de Dieu que vous et moi, peut-être. Il connaît la parole de Dieu. Il s'approche quelquefois vers toi. Il change la parole de Dieu à sa façon et te communique la parole pour te dire, tu vois, il est écrit. Mais Jésus lui a dit, il est écrit. Voilà, aussi. Et il a brisé cette tentation qui venait de la part, donc, de l'ennemi. Donc, contestataire. On peut discuter... On peut aussi discuter dans une église autour de la Sainte-Seine, autour de la Sainte-Seine. Je peux vous sortir des dizaines de motivations de certaines personnes dans certaines régions, voilà quelquefois. Puis on va discuter parce que c'est pas comme ça. On peut faire différemment. Alors là, la même chose comme la prière. Hein. Moi, j'ai dit, pourquoi on va discuter au sujet de faire la Sainte-Seine chaque réunion, par exemple. Ça existe. D'autres veulent vraiment prouver que la Sainte-Seine, c'est comme dans l'Ancien Testament, selon l'Ancien Testament, c'est juste une fois par an. D'autres vont dire une fois tous les dimanches. D'autres vont dire, c'est pas la jus de raisin, mais c'est le vin. Et bien, jus de raisin, c'est aussi... C'est le même fruit. Hein. D'autres vont dire, c'est surtout, il ne faut pas que les femmes touchent, c'est que les hommes. Enfin, je vous donne quelques arguments. On peut tellement raisonner, discuter, et après on peut se diviser. Et puis, l'ennemi a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a enlevé la paix. Alors, l'essentiel, vous voyez, moi, je n'ai jamais été difficile avec Dieu, hein, je vous ai déjà dit. L'essentiel, c'est que je prie. L'essentiel, c'est que je prends la Sainte-Seine avec beaucoup de respect. On est d'accord? Et l'est après, c'est humain, c'est le raisonnement. Ça va? J'aimerais que vous puissiez garder cet état d'esprit. Ça nous arrive à Christiane que nous sommes chez quelqu'un qui est malade et puis on va dire, on dit, écoute, ça fait déjà longtemps que tu n'es pas venu à l'église. Ça te fera beaucoup de plaisir, mais aussi une édification. On va faire la Sainte-Seine, spontanément comme ça. L'essentiel, c'est faire la Sainte-Seine. C'est souvenir que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Amen. C'est lui qui a payé le prix et il veut que nous soyons heureux et que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Donc, autour de la Sainte-Seine, autour de la louange. Quand je suis venu en France, j'avais 19 ans. Et nous, moi, j'ai grandi dans des églises clandestines. C'était juste juste un petit peu avant. Il n'y avait plus vraiment de cette persécution. C'était interdit, mais beaucoup plus de liberté. Alors donc, dans les églises clandestines, vous pensez que vous avez la batterie, vous pensez que vous avez le synthé, vous pensez que vous avez la guitare. Or, c'est pas parce qu'on est contre, mais quand vous êtes dans une petite pièce ou dans des caves, les gens dans 10 mètres carrés que vous pouvez mettre 5 personnes, là il y en a 25. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est serré, l'objectif c'est juste prier, lire la parole de Dieu. Ça pleure là-dedans, c'est très sentimental dans ces églises qu'on dessine encore aujourd'hui. Mais voilà, donc j'arrive en France, le monde est différent. Je vois la musique, je vois la guitare. Je suis allé voir dans une autre église, parce que mon père était invité ici prêcher dans les églises. Et je vois la batterie. Bon, c'est encore en France, à l'époque ça se discutait déjà. Dans certaines églises ça passait la batterie, dans d'autres non. C'est pour ça que moi, j'aime tellement la batterie, parce que je me libère de tout ça. Et j'ai dit, quoi? Oh, je suis vraiment ici dans une secte. C'est pas le jeu de tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on peut discuter de tout ça. Et puis, quelquefois, je me suis fait même une certaine idée. Il me fallait le temps. J'ai envoyé à courrier à mon père. Et j'ai dit, si, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Et puis, chez nous, on n'avait pas tout ça. Et lui, il m'a répondu, ferme les yeux à tout ça. Réjouis-toi avec eux. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Nous n'avons même pas une salle parce qu'on n'a pas pu, c'est le régime. Mais là-bas, c'est un privilège. Ah bon? D'accord. J'ai dû nettoyer ma tête de tout ça, comprenez? Mais on peut discuter partout, sous la louange, la prédication, la dîme, ça se discute tellement aussi, oh là là, partout. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Obligé, pas obligé? Rien n'est obligé. Rien. Mais Dieu ne nous oblige pas. Mais si dans une église, dans la culture d'une église, on a compris, c'est l'enseignement est comme ça, que la dîme est biblique, d'accord, bon, bah, on ne conteste pas. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas donner parce qu'il y a problème avec la compréhension, ou on laisse la paix, on ne force personne, c'est dans l'anonymat. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont des choses personnelles. Pourquoi discuter? On ne discute pas. Nous, on était contre, nous, quand on était jeunes. Contre la dîme, les finances. Pourquoi? Parce que vous avez compris, je suis sorti d'un contexte où on n'avait pas besoin de l'argent. On était contre. Et là, la même chose, ça chauffait là-dedans, quand un jeune pasteur nous a expliqué, si tu veux que l'Église grandit, que l'évangélisation se propage, bah donne la dîme et tu seras en même temps béni. Mais il fallait le temps. Mais il n'y a personne qui m'a forcé, vous comprenez? On n'a pas discuté. Mais il faut laisser le temps à Dieu. Donc on peut discuter sur la dîme, sur les finances, etc. Mais vous avez compris, si il n'y a pas de finances, on a été béni. Dimanche dernier, on a prié à Volculte. Pour bénir l'orateur, on avait besoin d'un budget de 1 500 euros. Et sur 1 500 euros, on a eu quelqu'un qui a donné un don, 300 euros déjà, puis ensuite on a une offrande. On a pratiquement pu couvrir, il ne nous manquait juste pas grand-chose. Et moi, je me suis dit, Seigneur, on ne peut pas se permettre de donner 1 500 euros. Mais tout ça, ça coûte, on est d'accord? On est d'accord. Et Dieu se sert de... Mais on peut discuter tout ça. Des choses là. Autour de la salle, la même chose. Il y a un courant maintenant qui passe par le monde entier. Vous savez, quand il y a un courant qui passe comme ça, ça balaye tout le monde. Hein, ça balaye tout le monde. On n'a pas besoin des locaux, c'est juste dans les maisons. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin des associations. Dieu n'a pas besoin. Ça se discute. Alors, Satan fait tout pour enlever la paix de l'Église. Et ensuite, il y a des confrontations entre les chrétiens. Et Satan, il rigole. Ah, c'est facile pour moi. Hein, tu vois, voilà. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Les bâtiments, au niveau du ministère aussi. Quand on a compris, quand on était jeune, que Dieu nous appelle pour faire l'œuvre de Dieu, ma première préoccupation, c'était pas du tout devenir un pasteur et diriger les autres. Pas du tout ça. J'ai même pas pensé à ça. Vous savez à quoi j'ai pensé quand on était jeune, quand j'ai senti que Dieu nous appelle. Alors, j'ai juste compris que Dieu m'appelle pour annoncer l'évangile, pour pouvoir prêcher aux autres, pour réunir les autres. Pour voir qu'une grand-mère puisse se convertir, même si elle a des problèmes, un grand-père ou une dame, peu importe, un jeune, une jeune, que voilà, c'est ça mon objectif principal, c'était voilà, je veux faire quelque chose, je réponds à ton appel, mais Le mot pasteur, ça ne m'intéresse même pas. Mon objectif principal, c'est arracher quelques âmes de l'enfer. Et ça me poursuit toute ma vie. Amen. Parce que, avant tout, je suis devenu le témoin. Vous serez mes témoins, d'accord? Voilà, donc au niveau des ministères, il y a combien de discussions? Je suis chrétien. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, c'est un homme. Ben oui. Mais moi, j'ai besoin des amis, des boucliers aussi. Je ne suis pas un pasteur isolé parce que c'est trop dangereux. L'ennemi il me coupe la tête tout de suite. Que ce soit un pasteur, un leader, vous savez, ceux qui ont la responsabilité de l'Église, c'est donc, sont des bergers. Ils sont attaqués. D'accord? Ils sont attaqués. Et on a tous besoin. Moi, j'ai quelques amis pasteurs dans le monde où on se dit tout, où on prie, où je demande le conseil. Que penses-tu dans cette situation? Parce que je ne veux pas rester, je ne veux pas dépendre de personne. Ah ben on va dire, oui, Dieu est là partout. Oui, oui, il est là. Mais Dieu se sert de nous. Amen. Donc, on a besoin de boucliers. J'ai besoin d'une église. Souvent, on m'a dit, Antoine, toi, tu fais plutôt un travail apostolique, tu fais itinérance, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui peut... Mais vous savez, moi, je ne vais pas voyager s'il n'y a pas l'église derrière moi. Je ne vais pas aller prêcher s'il n'y a pas l'église derrière moi. Il faut que je sois avant tout, membre d'une église avant parler de ministère. Alors, pour vous montrer que c'est vrai, imaginez-vous que vous allez couper... le poignet. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la mort. Est-ce que le poignet peut vivre tout seul? Le poignet doit être attaché à quoi? À mon corps, le corps. Si on me coupe l'oreille, est-ce que l'oreille va pouvoir voyager? Ah, ben, je suis libre! L'oreille va dire, je vais aller voir en Amérique, là-bas, il y a une église où ça chauffe, là-bas, il y a des guérisons. Voilà, l'oreille va aller là-bas. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, hein? L'oreille doit faire partie de quoi? D'accord. Imaginez-vous, vous coupez un doigt, la même chose. Impossible de vivre tout seul. Amen. Une église isolée, impossible de vivre qu'une église isolée puisse vivre tout ça. Nous devons faire partie du corps de Christ. Rien n'est parfait nulle part. Et ça, c'est la bénédiction. Voilà, donc la paix. Nous conduit dans l'édification. On va prendre tout ça plus tard. Ensuite, la marche. C'est-à-dire, la marche symbolise quoi? On ne reste pas sur place, mais la marche, c'est avancer. Spirituellement parlant, tu dois. Le Seigneur ne t'oblige pas. Il t'invite à grandir en maturité spirituelle. C'est développer spirituellement, de devenir solide, etc., etc. Donc, la marche. Donc, vous savez, c'est pour ça. On organise un programme dans l'église d'enseignement, etc. Ensuite, il y a la croissance. Donc, on va reprendre tout ça. Je vais prendre deuxième prédication. Je vais reprendre tout ça. Aussi, la croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Je vais parler... un peu plus aussi sur le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous aide, avant tout, il faut recevoir. Ce sont des choses surnaturelles. Il est toujours très difficile d'expliquer le Saint-Esprit. Il est toujours difficile d'expliquer l'action du Saint-Esprit. Il est toujours difficile d'expliquer le baptême du Saint-Esprit. Il est plus facile de recevoir. Allô? Il est plus facile de recevoir qu'expliquer. Parce que le Saint-Esprit est invisible, nous dépasse, c'est glorieux, c'est Dieu lui-même, c'est tellement formidable. Et puis nous nous arrêtons dans ces domaines à un certain moment, et puis ça se discute. Et puis il y a des églises aujourd'hui où les cultes sont complètement remplis de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et d'autres cultes, vous avez des cultes traditionnels. Parce que tout ça, il y a les raisonnements, il y a une explication, c'est difficile d'expliquer. Nous sommes allés il y a 2 semaines à Maubeuge. Voilà, Dieu nous a conduits d'aller à Maubeuge. Et puis à la fin de mon culte, de notre culte, j'ai dit, qui sont ceux qui veulent être renouvelés dans le Saint-Esprit? Qui sont ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et puis tout à coup, voilà, il y a 12 de personnes qui s'approchent. Et puis après, j'ai reçu une pensée de la part de Dieu. Fais un appel avant. Alors je fais un appel. Il y avait un monsieur qui s'appelait Marc, là, à ma gauche, un peu plus loin, là-bas. Et ce monsieur était figé, il était comme ça, il me regardait. Il me regardait, mais en même temps, il était travaillé comme ça. Et puis pendant ce moment où il y avait des gens devant, et j'ai fait un appel, ce monsieur Marc, voilà, il bouge ses mains. Voilà, quand j'ai dit « Qui veut donner sa vie à Jésus ?» J'ai ressenti qu'il y avait 3 personnes ici. Et puis, monsieur Marc, il était là. Et puis, il lève la main. Il était là pour la première fois, monsieur Marc, a donné sa vie à Jésus. Et puis, j'ai dit « Qui est la deuxième personne ? Troisième personne ? 3 personnes ?» Alors, j'ai prié pour eux, puis que Dieu vous bénisse, on va vous aider, etc., etc. Maintenant, on va prier pour les gens qui ont besoin d'être renouvelés et aussi baptisés du Saint-Esprit. Et monsieur Marc, qui était là-bas, il vient devant. Moi, je dis, attendez, vous êtes là pour la première fois, c'est pas très clair pour vous. Oh non, 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 j'ai compris, j'ai besoin de Dieu. Besoin de Dieu. Et monsieur Marc était là. Et puis la deuxième dame, elle était là. Et troisième dame, elle était là. 3 personnes nouvelles qui connaissaient pas du tout ce domaine-là. Et ensuite, on a commencé à prier, j'ai donné quelques conseils, on a commencé à prier. Je n'avais pas le temps d'expliquer. Comment expliquer le Saint-Esprit? Pas beaucoup. C'est tellement facile de le recevoir, de vivre. Et j'ai juste dit, il y avait un moment, on a prié, et puis un moment, recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez. Et monsieur Marc, il a levé les mains, puis il a commencé à prier au nom. Et j'ai dit à Niron, le pasteur, regarde ce que Dieu est en train de faire. Et l'autre dame, la même chose, le baptême du Saint-Esprit est tombé sur cette dame. Et puis, ça a pris en langue. J'ai dû même un peu calmer parce que, oh là là, Seigneur, il y a une puissance de Dieu. Alors après, j'ai dit à Christiane, je ne vais plus commencer d'expliquer le Saint-Esprit. Je vais juste dire à tout le monde, recevez le Saint-Esprit. J'en ai marre d'expliquer, de me battre, de tirailler les choses. C'est la sainteté de Dieu. En plus, la Bible dit, ne n'attristez pas le Saint-Esprit. Nos discussions, nos oppositions, nos contestations attristent le Saint-Esprit. Attriste. Et d'autres endroits nous dit que Dieu peut pardonner le péché contre le Père, le Fils, mais pas contre le Saint-Esprit. Oh là là! Prudence, mes amis, soyons prudents. Combien de choses que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Il n'y a que vous qui comprenez, mais pas moi. Alors j'ai dit, Seigneur, ça me dépasse. Je n'ai pas discuté. Quand le Seigneur a ouvert mon cœur envers Christiane, ben je n'ai pas discuté. C'était elle, quoi. Ce n'était pas compliqué. Voilà. On a les défis devant nous. Il y a l'espace café, hein, on a parlé un petit peu. Je vous ai dit, voilà, il y a tellement de réunions. Priez vraiment pour moi parce que tellement de choses actuellement dans la région qui se passent. Et à des moments, je m'ennuie, puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Est-ce que, voilà. Donc, vous voyez, priez pour tout ça pour que chaque fois nous puissions. Voilà, quand je suis allé à l'espace café, ensuite ce matin, on a prié pour pizza café, pizza. Thé, pizza coca, vous avez compris? J'ai dit, oui, il y a quelqu'un qui est revenu hier, mais on s'est permis d'arrêter. Il n'y aura plus. Allô? Les jeunes, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut continuer. Parce que quelquefois, un an après, vous avez quelqu'un qui arrive. Et vous adorez, vous êtes content. Hein? Allô? C'est formidable. Donc il y a toutes ces choses. Prions pour la jeunesse, prions pour les moins jeunes, prions pour les enfants, pour la fête de la semaine prochaine. Prions pour toutes ces choses-là. Et réclamant voilà, la bonne santé. Donc la bonne santé. La bonne santé, donc je vais vous dire, je répète, c'est la paix, l'édification, d'accord? Mais j'ai pas fini les choses, l'édification, la marche, c'est-à-dire vivre dans l'obéissance devant Dieu. Et puis ensuite, quatrièmement, la croissance par l'assistance, avoir l'assistance, être aidé par le Saint-Esprit, par les surnaturels, pour que nous puissions vivre les surnaturels tout à fait naturellement. Voilà. Jason m'a dit il n'y a pas longtemps, voilà, tu as vu, l'ennemi voulait complètement te casser. Détruire. Mais Jésus était là. Hein, c'est ça. Alors maintenant, en avant, avec Jésus. C'est ça. On va se lever ensemble. Alléluia. C'est formidable. Hein, d'être là ensemble dans la présence de Dieu. Alors, Esteban, t'as...